Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour à tous. Nous étudions donc la leçon 13 pour cette semaine du 21 au 27 mars 2009 qui a pour titre
« Placer sa confiance dans le don de prophétie ».
Le verset donc à mémoriser.
Oui, c'est celui-ci, tiré des deux chroniques, chapitre 20 et verset 20. Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, mettez votre foi dans le Seigneur votre Dieu et vous tiendrez. Mettez votre foi dans ses prophètes et vous vaincrez. » Et les questions clés sont les suivantes.
Pourquoi devons-nous considérer la Bible comme l'autorité suprême en matière de doctrine ? Quelle importance a l'étude de la Bible pour notre vie actuelle ? Que se passe-t-il quand on ne tient pas compte de la parole prophétique ? En quoi les miracles devraient-ils affermir notre foi ? Et pourquoi certaines personnes se rebellent-elles contre le don de prophétie ?
Des gens souhaitaient se joindre à l'église adventiste du septième jour. Ils en étaient venus à accepter ces enseignements grâce à l'étude de la Bible. Mais ils se posaient des questions sur Ellen White. Après tout, il y avait tant de faux prophètes et de faux enseignants. Ils voulaient se montrer prudents. Comprenant leur inquiétude, le pasteur qui les instruisit leur dit « C'est à vous d'en décider. Selon la conviction personnelle que vous communiquera le Saint-Esprit, prenez le temps de lire les écrits d'Ellen White, vous serez d'emblée à l'aise avec certains passages, tandis que d'autres vous poseront question. Mais lisez ces livres par vous-même et faites-vous votre propre opinion. En fin de compte, ce sont ces écrits qui donnent les plus grandes et les meilleures preuves de leur origine. »
Pour la journée du dimanche 22 mars 2009, le titre est
« L'autorité de la Bible ».
Donc nous nous posons la question, quel parallèle pouvons-nous voir entre l'expérience des disciples après la crucifixion et celle des premiers croyants adventistes après la grande déception de 1844 ? Nous lirons plusieurs versets, notamment dans Luc 24, versets 13 à 21.
Et tout d'abord les versets 13 à 15. « Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui était, de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Et nous continuons versets 16 à 18.
« Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?» Continuerons de versets 19 à 21.
« Quoi leur dit-il ? » Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Nous continuons avec les versets 28 et 29.
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche ». Le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Continuons de versets 30 à 31.
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
À la crucifixion, les disciples ont ressenti une grande déception. Ils avaient espéré que Jésus délivrerait Israël. Quand ils l'ont vu entrer dans Jérusalem sur un âne, accomplissant de la sorte la prophétie de Zacharie, ils étaient convaincus qu'il deviendrait leur roi, chasserait les Romains et instaurerait le royaume de Dieu sur terre. Ce n'est qu'après sa mort, quand Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, qu'ils ont réalisé pour la première fois que Jésus était venu dans un tout autre but.
En d'autres termes, malgré les années que Jésus avait passées au milieu d'eux, malgré son témoignage sans équivoque, les disciples s'étaient trompés. Ils ne comprenaient toujours pas l'enseignement des Écritures. Alors Jésus a dirigé leur attention vers la Bible sur laquelle ils devaient fonder leur croyance.
Lisons Acte 1, le verset 6.
Alors voici ce texte. « Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?»
La question posée par les disciples ne montre-t-elle pas que même après la résurrection, alors que Jésus se trouvait avec eux, ils se trompaient encore sur le sens de sa venue ? Nous commenterons cela ensemble. Donc, les premiers croyants adventistes ont eux aussi été profondément déçus à cause de l'erreur d'interprétation faite par William Miller, qui pensait que le sanctuaire représentait la terre. Et tout comme les disciples, qui grâce à l'étude de la Bible et aux interventions surnaturelles de Dieu, ont réussi à se débarrasser de leurs idées fausses, les premiers croyants adventistes en sont venus à une nouvelle compréhension du sanctuaire. Grâce à l'étude des Écritures et aux directives que le Seigneur leur a données par le ministère prophétique d'Ellen White.
Mais finalement, même si le don de prophétie leur était d'une grande aide, nos pionniers ont décidé de fonder leur doctrine sur la Bible, sans se servir du don de prophétie comme d'une autorité en matière de doctrine.
Aujourd'hui encore, nos croyances ne doivent être fondées que sur la parole de Dieu seule. Une fois que nous avons la certitude qu'une doctrine est bibliquement fondée et que c'est sur ce ferme fondement que portent nos travaux, alors seulement nous exerçons notre confiance dans le don prophétique.
Eh bien, s'achève ainsi ce dimanche 22 mars 2009. Maintenant, le lundi 23 mars 2009, et là, il s'agira de...
Sonder la parole.
Sonder la parole. Pourquoi les Béréens étudiaient-ils chaque jour la parole? Pourquoi avaient-ils besoin de vérifier si ce que disait Paul était vrai? Pourquoi n'avaient-ils pas confiance en lui? Eh bien, nous allons lire ce texte, il se trouve dans le livre des Actes, chapitre 17 et le verset 11.
Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Du fait que Paul s'appuyait sur les Écritures pour prêcher le Christ et montrer qu'il était le Messie promis, ceux qui l'écoutaient d'un esprit ouvert se sentaient poussés à vérifier par eux-mêmes s'il disait vrai. Même les paroles de Paul ne leur suffisaient pas. Ils avaient besoin d'en trouver confirmation dans la Bible.
Voyons pourquoi, d'après quelques textes, est-il important d'étudier les Écritures. Donc dans Proverbe 2, le verset 1 à 5.
Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous continuons les versets 6 à 9.
Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Continuons dans Matthieu 4, verset 4.
Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Ellen White a constamment exalté la parole de Dieu et encouragé les membres d'Église à l'étudier. Chers lecteurs, je vous recommande la parole de Dieu, qu'elle soit la règle de votre foi et de votre vie, dit-elle dans les premiers écrits. Dans l'introduction de la tragédie des siècles, elle a écrit aussi « C'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la pierre de touche de l'expérience. »
Pourquoi les prophètes ont-ils, au cours des siècles, exhorté le peuple de Dieu à lire, à étudier la parole de Dieu? La raison en est simple. Les Écritures ont été données comme une révélation de sa personne. Chaque vérité discernée jette un jour nouveau sur le caractère de son auteur. L'étude du Saint-Livre est le moyen de nous faire entrer en communion plus intime avec notre Créateur et de nous donner une connaissance plus nette de sa volonté. Elle sert de voie de communication entre Dieu et l'homme. C'était une citation d'Ellen White dans La tragédie des siècles.
Les écrits d'Ellen White ne doivent jamais prendre la place de la Bible. Elle a passé sa vie à exhorter les membres d'Église à lire la Bible et à en faire la règle de leur foi et de leur vie.
Nous continuons cette étude de cette dernière semaine du trimestre. C'est le mardi 24 mars 2009. Et là, nous allons maintenant
tourner les regards vers Jésus.
Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Et nous trouvons ceci dans Jean 5 et verset 39. Lisons donc ce que quelques textes nous apprennent maintenant sur Jésus. Nous avons un premier texte que nous trouvons dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, les versets 4 à 6.
« Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Continuerons dans Michée 5, verset 1.
« Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. »
Jésus a aussi affirmé « Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. » C'était donc une citation de Jean 8, verset 56. Moïse, lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit dans Jean 5, 46. David m'appelle Seigneur, dans Matthieu 22, 45. Il a commencé son ministère à Nazareth en citant les paroles d'Ésaïe, qui sont « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. »
Il a ensuite déclaré « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il savait que l'Ancien Testament était rempli de textes le concernant. Il était au cœur de l'espérance d'Israël. Les auteurs bibliques, de Moïse à l'apôtre Jean, ont dirigé les regards de leurs lecteurs vers celui qui viendrait une première fois pour sauver son peuple de ses péchés, et une seconde fois pour le délivrer de la présence du péché.
Comme les prophètes de la Bible, Ellen White n'a cessé de diriger l'attention des gens vers leur sauveur, Jésus-Christ. Si sombre qu'a pu être notre passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus tel que nous sommes, faibles, privés de soutien ou désespérés, le Sauveur compatissant viendra au devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour pour nous présenter au Père, revêtus de son propre caractère comme d'un vêtement éclatant. C'est tirer des béatitudes une vie meilleure.
Elle exhortait, texte poursuit en disant ceci, elle exhortait les serviteurs de Dieu à placer le Christ au centre de toute chose. Introduisez, disait Ellen White, le Christ dans chaque sermon, que l'indicible valeur, la miséricorde et la gloire de Jésus-Christ soient enseignées jusqu'à ce que le Christ, l'espérance de la gloire, soit formé en vous.
Ellen White a souligné de façon réitérée que Jésus était une présence bien réelle pour elle. « Je sais que mon Sauveur m'aime et je l'aime. Je repose dans son amour malgré mes imperfections », a-t-elle dit dans un de ses manuscrits. Jésus était au cœur de son ministère. « Tout ministère, dit-elle, doit se proposer de s'effacer pour que le Christ paraisse. Exalter le Christ, telle doit être la grande préoccupation de tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. »
Oublions un moment les questions de doctrine et de théologie et posons-nous la question suivante. Est-ce que je connais vraiment Jésus ? Mais c'est une question, bien sûr, très importante et nous devons nous la poser en terminant cette journée du mardi 24 mars. Mercredi 25 mars 2009,
qui a pour titre « Le sang des prophètes ». Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Vous construisez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes. Et vous dites « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes ». Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes.
C'était un texte de Matthieu 23, versets 28 à 31. Malgré toutes les preuves de l'intégrité et de la validité du ministère d'Ellen White, certains d'entre nous ont eux aussi, d'une certaine manière, versé, entre guillemets, le sang des prophètes. Comme dans l'ancien Israël, il y a parmi nous des personnes qui, de façon diverse, subtile ou non, essaient de saper toute confiance dans le ministère d'Ellen White. Il en a été ainsi dès le début. Soyons certains qu'il en sera de même jusqu'à la fin. Presque toutes les critiques prononcées à son encontre et à l'encontre de son œuvre rappellent les accusations portées contre les prophètes d'autrefois et contre la parole de Dieu elle-même.
Les raisons d'un tel comportement sont diverses. Certains ont exalté les écrits d'Ellen White de façon peu appropriée, ce à quoi d'autres ont réagi, parfois trop fortement. D'autres ne comprennent pas comment fonctionne l'inspiration, et comme les écrits d'Ellen White ne correspondent pas à l'idée qu'ils s'en font, ils s'y opposent. Il y en a qui en parlent peut-être sans les connaître, d'autres peut-être avec une hostilité qui tient à leur étroitesse d'esprit.
Fort heureusement, nous n'avons pas à juger des motivations ni des cœurs. Il suffit, comme l'écrit l'apôtre Pierre, que vous soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. En fin de compte, chacun de nous aura à choisir personnellement les paroles qu'il écoutera et auxquelles il croira.
Donc à méditer pour terminer cette leçon du mercredi 25 mars, quelle est notre attitude personnelle à l'égard des écrits d'Ellen White ? Réfléchissons aux raisons d'une telle attitude. Sommes-nous prêts à changer d'avis ?
Eh bien oui, il faut bien y réfléchir et peut-être changer d'avis, pourquoi pas. Jeudi 26 mars 2009, là nous continuons, nous arrivons bientôt à la fin de cette semaine et nous avons aujourd'hui le...
Don de prophétie et miracle.
Sa renommée, c'est un texte tiré de Matthieu 4, verset 24 qui nous est proposé au début. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments démoniaques, lunatiques, paralytiques et il les guérit.
Réfléchissons au ministère du Christ quand il était sur terre. Maintes et maintes fois, il a opéré des miracles, changeant l'eau en vin, nourrissant les 5000, guérissant les malades ou ressuscitant les morts. Jésus a ainsi marqué le temps qu'il a passé sur terre et il a rendu un puissant témoignage de sa parole divine.
Eh bien voilà, nous allons lire maintenant dans l'évangile de Luc, le chapitre 24. Et le récit de la rencontre de Jésus avec deux disciples sur la route d'Emmaüs. Et nous allons voir sur quoi apporter leur attention pour les convaincre que Jésus de Nazareth était bien le Messie, et pourquoi la réponse à cette question a-t-elle une telle importance pour nous, notamment par rapport au don de prophétie. Lisons donc ce récit, Luc 24, les versets 13 à 16 pour commencer.
Et voici que ce même jour... Deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Continuerons versets 17 à 20.
Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié ?» Nous continuons avec les versets 21-23.
« Nous espérions que... Ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. » Continuerons versets 25 à 27.
Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Malgré tous les miracles qu'il avait opérés auparavant, c'est sur la parole de Dieu que le Christ a dirigé l'attention des deux disciples. Il a cherché à leur enseigner la vérité sur la mort, sa résurrection et tout ce que celle-ci signifiait en s'appuyant uniquement sur la Bible.
Ne passons pas à côté de ce point. Pendant des années, il y a eu de nombreux écrits, de nombreux récits sur les miracles opérés par le Seigneur grâce au ministère d'Ellen White. Certains d'entre eux sont plus faciles à vérifier que d'autres. Mais de toute façon, notre foi dans le don de prophétie ne doit pas reposer sur des récits de miracles.
Même si ces derniers ne sont pas anodins, nous devons toujours les soumettre à l'épreuve de la parole de Dieu et voir s'ils s'harmonisent avec elle. Même si les miracles ont de la valeur, ils ne sont pas un critère de l'authenticité du don de prophétie et ils perdent toute signification si ce qu'ils enseignent n'est pas biblique.
Comme pour l'inspiration de la Bible, des questions demeurent concernant la manifestation du don de prophétie dans la vie d'Ellen White. Cependant, ce don parle pour lui-même. Il rend de lui-même le meilleur témoignage qui soit. Ni les miracles, ni nous-mêmes ne pouvons, ni ne devons y ajouter quoi que ce soit.
Il n'y a rien que nous puissions ajouter, pas même venant de récits de miracles. Nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir en toute conscience prendre position au sujet de ce don. Indépendamment des questions non résolues qui se posent encore à nous, qui voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse.
Ainsi se termine cette semaine par le vendredi 27 mars 2009 et, comme d'habitude, pour aller plus loin, nous vous proposons quelques citations. Et tout d'abord, voici ce que nous allons vous proposer. L'opposition ou l'indifférence à l'égard des écrits d'Ellen White viennent généralement de ce que, tout d'abord, on ne lit pas assez ses écrits pour pouvoir reconnaître et comprendre que l'ensemble de ses instructions forme un tout équilibré. Ensuite, on ne comprend pas assez la relation exacte existant entre ses écrits et la parole de Dieu. Ensuite, on connaît mal ce qu'est la véritable inspiration divine, on ne tient pas compte du contexte, c'est-à-dire des notions de lieu et de temps, ainsi que le conseiller Ellen White.
Également, on ne réalise pas que ses conseils sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. On ne veut pas reconnaître que s'il existe suffisamment de matériaux pour convaincre les cœurs honnêtes, le Seigneur n'écarte pas la possibilité de douter. Aussi, on ne veut pas renoncer aux habitudes ou aux pratiques qui ne semblent pas en harmonie avec les conseils donnés par Ellen White dans ses écrits.
Une grande partie de la résistance à l'esprit de prophétie disparaîtrait, tout d'abord, si les gens arrêtaient de se servir de ces phrases ou de paragraphes entiers comme d'un bâton pour frapper les autres. Également, si chacun s'appliquait à lui-même les conseils de l'esprit de prophétie, au lieu de les appliquer à autrui. Et si on cessait de citer des textes d'Ellen White sans en connaître les références, il existe déjà trop d'écrits apocryphes.
Également, si nous évitions de discuter d'un passage avant d'avoir étudié tout ce qu'elle dit ailleurs sur le même sujet, une connaissance partielle est parfois plus dangereuse que pas de connaissance du tout. Ensuite, si nous reconnaissions que le fait de ne pas arriver à vivre ou à mettre en pratique les conseils d'Ellen White n'a rien à voir avec l'authenticité des visions, de ses visions et instructions.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette journée du vendredi et deux, trois lignes sont proposées pour notre méditation. Nombreux sont les nouveaux membres qui se posent des questions sur Ellen White. Comment les aider à obtenir une vision équilibrée de ce don? Eh bien, c'est une tâche difficile et avec l'aide du Seigneur, eh bien, nous devons essayer d'y parvenir. Ainsi prend fin donc cette étude, ce trimestre. Et avant de vous quitter, nous allons vous donner un aperçu de ce qui va être étudié le trimestre prochain. Et là, il s'agira d'une étude qui est proposée par Reinder Bruisma. Nous allons peut-être avoir quelques indications concernant cet auteur, mais le but de ce trimestre prochain sera courir vers le but, la vie chrétienne. Et nous allons vous donner quelques extraits donc de cette introduction. Ce questionnaire a été fait par Reinder Bruisma, né aux Pays-Bas. Il a occupé plusieurs fonctions au cours de sa longue carrière au service de l'Église. Il a écrit près de 20 livres, dont certains ont été traduits en plusieurs langues. Il était président de l'Église adventiste des Pays-Bas au moment où il a rédigé ce guide d'études de la Bible. L'un des grands penseurs des 18e et 19e siècles, Pierre Laplace, a écrit un livre sur le mouvement des planètes intitulé « Mécanique céleste ». Et il a présenté un exemplaire de ce livre à l'empereur Napoléon en personne. Quelqu'un l'avait averti auparavant que le livre de Laplace ne parlait pas une seule fois de Dieu. L'empereur a accepté le livre, puis il a demandé « Monsieur Laplace, on m'a dit que vous aviez écrit ce gros livre sur les systèmes de l'univers, sans jamais en mentionner le Créateur. » Laplace a répondu sans se démonter « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. »
Cette histoire illustre parfaitement l'ère moderne, dans laquelle la logique, la raison et la science sont censées poser les fondements de toute vérité, quelle qu'elle soit. Selon cette vision, la vérité se résume en formules, lois et prévisions scientifiques. Tout ce qui n'est pas explicable par celle-ci n'existe pas.
Il y a eu ces dernières années une réaction contre cette façon de voir. On ne croit plus, à juste titre, que la réalité dans sa totalité puisse être expliquée par de froids raisonnements. Aucune formule, aucune éprouvette, aucune loi scientifique ne pourront jamais expliquer certaines des réalités nous concernant.
Cette réaction, ou sorte de retour de manivelle, a touché tous les domaines de la vie, y compris la religion. Cependant, comme la plupart des contre-réactions, elle est parfois allée trop loin, jusqu'à écarter ou ignorer le concept de vérité doctrinale. Ce ne sont pas les enseignements ou les doctrines qui importent, nous dit-on, mais l'expérience. Ce qui compte, c'est que vous vivez par la foi dans le moment présent. Au lieu de dire « voici d'évidentes raisons de croire en Jésus-Christ et en sa promesse de salut », la tendance fait dire « notre communauté de foi vous invite à nous rejoindre pour vivre une expérience de foi et de consécration. »
Eh bien, nous terminerons ainsi cette introduction au prochain trimestre. Nous allons interrompre maintenant notre étude de ce jour et nous vous donnons rendez-vous à bientôt pour une prochaine étude.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.